et premier invité de ces matins du samedi, Biennale du design de Saint-Étienne oblige, un homme qui a fait de cette discipline son métier, à moins que son métier ne soit plutôt la gastronomie et qu'il se serve du design comme d'un médium. Nous allons le voir avec lui. Marc Bretillot est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, ici dans ces studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous êtes designer culinaire. Alors, première question, vous penchez plutôt de quel côté? Du côté du design ou du côté de la cuisine?
Ah, ça a à voir à mon histoire personnelle. En fait, moi j'ai fait l'école Boulle au départ, donc je suis issu des métiers d'art.
Spécialité puis... gravure sur acier.
Ouais. Ça ne me rajeunit pas, ça fait un certain temps. Et j'ai toujours aimé la cuisine, et donc j'ai oscillé jeune entre ces deux disciplines qui sont la construction, le dessin et la cuisine. Et il s'est trouvé que... En sortant de l'école, après, j'ai été appelé par le directeur de l'école supérieure d'art et design de Reims, Gervais Jassot, pour enseigner les matériaux. Et dans le cadre de ces cours de matériaux, j'ai commencé à dériver tout doucement vers la cuisine pour créer cet atelier il y a un peu plus de 25 ans à Reims. Et c'était super parce qu'en fait, je suis arrivé au bon moment, j'ai eu la chance que les portes s'ouvrent, d'avoir des médias qui s'intéressent rapidement à cette... nouvelle façon de voir le monde alimentaire par le biais du design. Et donc, je suis vachement content parce que c'est l'association de mes grandes passions qui sont le dessin, la construction et la cuisine.
Alors, on va bien sûr venir à ce design culinaire. Vous allez nous le présenter, peut-être nous le définir, peut-être même nous le décrire, Marc Bretillot. Mais j'imagine que pour commencer, pour définir le design culinaire, il faut peut-être revenir déjà au design tout court. C'est-à-dire comment parler du design? C'est quoi pour vous le design? On a l'impression qu'il bouge beaucoup. Je citais tout à l'heure la commissaire de cette 11e édition de la Biennale de design à Saint-Étienne qui dit le design traite de plus en plus des systèmes et non des objets seuls. En créant des ambiances, des milieux, des expériences, il crée des connexions aux choses et entre les gens. On n'a pas cette image-là du design habituellement.
C'est un terme qui est en perpétuelle évolution. Pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le projet qui se construit par le dessin. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde est designer.
Oui, ceux qui savent dessiner.
Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué de catégoriser les choses. Je pense que l'intérêt, en tout cas, si on veut parler de design culinaire, c'est d'avoir un certain recul sur une activité qui est celle de manger, qui est un acte global, qui est la seule activité humaine qui fait fonctionner les cinq sens de façon simultanée. Donc ça, c'est très très particulier et c'est super intéressant pour un designer parce que vous pouvez interagir en bougeant une petite vignette de cette perception organoleptique très complète. Par exemple, si vous modifiez le son, vous allez modifier la perception organoleptique. Et donc, c'est de dire, on prend un peu de recul sur l'acte de manger et on regarde où est-ce qu'on peut intervenir. Pour moi, c'est ça le design, c'est cette capacité à s'extraire un peu des choses et le dessin est un super outil aussi pour ça. C'est pour ça que c'est important. C'est un outil de synthétisation, c'est un outil... Quand vous prenez une photo, en fait, l'image, vous choisissez pas ce qu'il y a sur votre image. Quand vous ne dessinez que ce qui vous intéresse de façon consciente et inconsciente.
En quoi ça relie les gens entre eux? Je vais vous faire écouter l'un des artistes designers qui est invité lors de cette biennale, qui est John Maeda. On lui a donné carte blanche pour cette biennale. Et lui, il dit le design doit s'adresser à tous. Écoutez-le.
Je pense que le design était autrefois réservé à une élite, mais qu'il est aujourd'hui reconnu comme utile à tous. C'est plus difficile car les designers n'ont pas l'habitude de concevoir pour tous. Ils préfèrent s'adresser à une élite. Alors que le design, c'est quelque chose d'universel. Et lorsque l'on conçoit des choses dans le secteur de la technologie, on a tendance à prendre pour cible des personnes qui nous ressemblent, qui sont allées à l'université, qui sont douées avec les ordinateurs. Et on oublie parfois que tout le monde ne l'est pas. Donc si votre design n'est pas inclusif dans le secteur de la technologie, vous n'êtes pas un bon designer.
Marc Bretillot, vous êtes d'accord avec cette idée d'inclusion Vous êtes plutôt sur la transversalité, donc, puisque dessin et cuisine, et on va y revenir, mais cette idée que c'est faux, que le design est réservé à une élite, et que justement, il doit s'ouvrir aux autres pour mieux y revenir.
Le problème, c'est que le bon design, ça se voit pas.
Quand on s'assoit sur une chaise qui est designée, on le voit.
Mais toutes les chaises sont designées.
Justement, ça se voit.
Pas forcément. Non, si elle est confortable, si elle est harmonieuse, si vous l'oubliez, si c'est pas un objet qui vous agresse, c'est du bon design. Et en matière alimentaire, pour moi, l'archétype du design, par exemple, c'est la saucisse.
Ah oui.
Bah oui, c'est un produit qui est génial, qui permet le transport, qui permet la conservation, qui permet une découpe aisée. Donc c'est un produit qui répond complètement à son usage. Et pour moi, c'est
voilà. Vous dessinez des saucisses.
Je sais pas si je les dessine. Le fait de, comment dire, de se revendiquer comme designer ne m'intéresse pas.
Donc vous penchez plutôt du côté culinaire de ce point de vue-là.
Oui, mais je pense que celui qui a, je sais pas qui a inventé la saucisse, mais c'est un objet qui est hyper, qui est hyper cohérent. Le contenant. C'est l'intestin, c'est un produit qu'on va digérer, donc il y a toute une symbolique qui est super riche, et c'est un produit qui perdure. Et pourquoi il perdure? C'est parce que c'est un produit qui répond complètement à ses usages, et ça c'est du bon design. Donc pour moi le design, c'est quand on oublie que c'est du design.
Vous utilisez souvent l'exemple du Toblerone pour nous définir le design culinaire, Marc Bretillot, ou les apéricubes.
Les apéricubes moins, mais le Toblerone un peu plus. Mais là, on est en fait sur les prémices du design, qui est l'aspect formel. Et je cite aussi souvent le fromage, parce que l'étymologie de fromage, c'est formage. Et donc, on voit que la question de la forme est importante. Ceci dit, avec un peu de bouteille, je me rends compte que même si on peut associer design au style, design à la forme, design à l'esthétique industrielle. Finalement, ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est effectivement la relation entre les gens, l'usage, comment des objets ou des concepts ou des organisations vont créer du lien.
Mais je comprends pas bien à quel moment le design devient culinaire. Est-ce que ça devient culinaire quand le matériau, au départ, est alimentaire?
Le champ du design culinaire, si on veut réussir à le borner, c'est le fait que l'aliment soit ingéré. Et vous avez des artistes qui utilisent le média alimentaire comme outil d'expression. Ça va être une robe en viande, ça va être les tables de Daniel Spoerry qui sont mis, enfin où les repas sont collés sur la table. Après, la table est mise de façon verticale, donc ce sont des traces, mais il n'y a pas l'expérience de la dégustation. Et vraiment, ce qui borne le champ du design culinaire, même si on parle de l'art de la table par exemple, c'est le fait que une fourchette, suivant sa qualité ou son dessin, suivant son matériau, va interagir véritablement sur la perception organoleptique du produit.
La perception organoleptique du produit, c'est peut-être quelque chose qu'a pensé un grand chef cuisinier qui est pas très très loin de Saint-Étienne, en tous les cas, qui est né dans le coin. C'est évidemment Pierre Gagnaire, auquel vous vous référez aussi parfois, Marc Bretillot. Il était l'invité de France Inter en 2017, écoutez-le.
En 76-77, j'ai appris l'affaire familiale, et c'était l'explosion de la nouvelle cuisine, et c'était le début de la verbalisation de la cuisine. C'est-à-dire que il y avait des gens qui mettaient des mots. Mm-hmm. Des gens comme Christian Millot, des journalistes qui ont parlé des émotions que procurait la nourriture. Et moi, là, à travers ça, j'ai compris que la cuisine pouvait être un vrai moyen de communication. Donc, dit communication, dit implication personnelle, ça devient plus un métier, ça devient un moyen de créer et de prendre et de donner des choses qui sont au-delà de la nourriture.
Marc Bretillot.
Je suis assez ému parce qu'effectivement, c'est un chef immense qui a fait pour la cuisine française. Pour moi, c'est peut-être un des plus grands chefs. Et c'est intéressant qu'on soit à Saint-Étienne parce qu'effectivement, c'est là où il a commencé en reprenant une affaire familiale, et il est parti de Saint-Étienne. Alors quand on regarde un peu ce paysage, moi j'interviens comme commissaire de cuisine à Saint-Étienne, on se rend compte que c'est une ville assez étonnante. que quand Pierre Gagnaire est parti, ben, il n'y a pas eu vraiment de relève. Et que par contre, si vous prenez un compas, que vous faites un trait de compas autour de Saint-Étienne, vous avez plein de chefs super renommés, Trois Gros, Pic, Bocuse et Marcon. Et par contre, voilà, il y a une espèce, comme si c'était un volcan, comme si Saint-Étienne était un crassier issu des mines. Et donc, il y a une espèce de trou qu'a laissé Pierre Gagnaire en partant. Et ce qui est intéressant à travers Pierre Gagnaire, c'est qu'il dit, lui, la cuisine de terroir ne l'intéresse pas. Et donc ici, on est dans presque un non-terroir. C'est une ville de... extrêmement cosmopolite, où il y a eu une immigration très variée. Et donc, il y a une mosaïque, en fait, de cuisine. Et je pense que à travers la biennale, à travers le design, à travers le renouveau, à travers l'énergie de cette ville, à travers son côté alternatif, il va émerger une cuisine singulière sur ce territoire.
Et c'est intéressant pour le designer culinaire que vous êtes. Est-ce que justement ce terroir propre à Saint-Étienne est inspirant pour vous ?
Bah oui, parce que
vous travaillez avec des chefs cuisiniers, vous travaillez avec des industriels de l'agroalimentaire, vous travaillez avec des scientifiques.
Bah je travaille. En fait, j'ai des projets qui sont très très variés et moi, je suis le cul entre deux chaises, entre l'artiste et le designer. Et donc, à travers chaque projet, je vais aller chercher les bonnes personnes. Donc, ça peut être un sociologue, ça peut être un scientifique, ça peut être un cuisinier, ça peut être un charcutier. Et donc, l'idée du design, je pense que c'est de mettre en commun les bonnes personnes autour de la table, avec la bonne volonté, ce qui n'est pas toujours évident de réunir les personnes. Qu'on est finalement la difficulté du projet, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions et d'arriver à être d'accord sur les objectifs qu'on se fixe.
Vous avez vraiment votre place dans cette 11e biennale qui cherche un terrain d'entente. C'est-à-dire, en gros, quand les chefs parlent de produits, bah, le designer culinaire que vous êtes parle de matériaux avec eux pour essayer de trouver justement des moyens de communication. Tiens, disait Pierre Gagnaire, bah, vous êtes au cœur, vous dites le cul entre deux chaises, pas forcément, vous êtes au centre de plein d'arts et plein de disciplines différentes, puisque le design culinaire, il n'est pas seulement dans l'assiette, si je comprends bien. Il est aussi, il touche, vous disiez, les arts de la table. Il y a peut-être le packaging, le positionnement d'une marque, l'identité graphique, l'agencement d'une boutique. Tout ça, c'est du design culinaire à partir du moment où vous travaillez avec l'alimentaire ?
Bien sûr. L'environnement, la façon dont vous organisez en fait, les personnes qui sont autour de la table. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les gens ont l'impression d'être assez précis sur l'analyse des goûts. Mais aller dans un restaurant étoilé, dans un 3 étoiles, avec votre directeur qui vous annonce qu'il va vous virer, le repas est pas terrible, quoi. Alors que si vous mangez un jambon beurre avec votre copain, même sur un coin de zinc, ça peut être une expérience merveilleuse.
Mais donc à quel moment vous intervenez, vous ?
Eh bien, par exemple, sur la biennale, sur la question de l'inauguration, c'est comment la cuisine est... vecteur de cohésion, d'expérience, comment les gens sont contents d'être là. Donc j'ai travaillé par exemple avec le lycée Le Renouveau, qui est un lycée hôtelier, avec des jeunes, et je leur demande à chaque fois, souvent dans mes propositions, à ce que la cuisine soit présente, que les jeunes fassent la cuisine devant les gens. Je pense que ça, c'est super important.
Presque de la scénographie. Vous mettez en forme.
Oui, oui, bien sûr.
Autour d'un repas, autour d'une table. Qu'est-ce qui prime, Marc Bretillot ? C'est le beau, le bon dans votre travail ? Ou de faire en sorte que les deux soient ensemble ?
C'est le... le bon, ça, c'est culturel. Et le beau aussi, c'est la phrase de Klaus Lévi-Strauss. Il ne suffit pas qu'un produit soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. C'est-à-dire que la personne qui doit vivre cette expérience, il faut... que ça la satisfasse à tous les points de vue.
Donc c'est faire du beau avec du bon. On peut dire ça.
Non, ça, c'est un truc de cuisinier. non, c'est
fait. C'est dur d'arriver à mettre.
Bah oui, c'est dur d'arriver à mettre des mots. En plus, enfin, c'est une discipline qui est toute récente, hein, donc qui est en train de s'écrire.
Oui, ça a 20 ans.
Ouais, ça a 20 ans. Après, elle s'inscrit aussi dans l'histoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de Daniel Spoerry. On peut parler d'Antonin Carême, qui est cuisinier de Talleyrand et qui est passé de la cuisine à l'architecture. En dessinant ses plats avec des ordres comme des architectes. Comment dire ?
Est-ce qu'il y a une dimension, vous disiez qu'il y a une thématique sociale, hein, puisque c'est repenser le lien avec ce qu'on mange, avec cette idée que bah, on part de la nourriture comme un matériau comme un autre pour un designer, comme le bois ou le verre, bah, le matériau est comestible. Est-ce qu'il y a un côté écologique, par exemple, dans le travail que vous faites aujourd'hui? La dimension écologique ou environnementale est très présente dans cette édition de la Biennale.
Bon, on peut pas passer à côté. Je reviens à cette phrase de Claude Lévi-Strauss. Quand vous achetez une baguette, est-elle produite artisanalement ou est-elle produite industriellement ? C'est une question qui touche au fonctionnement sociologique, voire au paysage. L'alimentation modèle le paysage. Vous voyez, le design culinaire, ça va jusqu'à là. C'est-à-dire que, en faisant de l'agroforesterie ou en plantant les champs de telle ou telle manière, quand vous prenez le train, vous avez 90% du paysage qui est produit par l'alimentation. Et donc, on peut, ces champs-là sont aussi questionnés. À travers le design.
Vous disiez c'est une discipline jeune, hein. De fait elle a 20 ans, mais elle connaît un véritable succès depuis une petite dizaine d'années. Un livre, le design culinaire, qui accompagnait une exposition Food Design à Paris en 2011. Et puis vous avez créé le département de design culinaire à l'École supérieure d'art et de design de Reims, Marc Bretillot. Ça veut dire que c'est vraiment devenu une discipline à part entière?
Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Je vous ai raconté un petit peu mon histoire. Ça a été l'opportunité d'associer des passions. Il s'est trouvé qu'effectivement, il y a eu un fort écho de cette discipline. Ça a été pour l'école de Reims vraiment un fer de lance pour faire parler de l'école. Et puis, on a eu la chance de tomber au bon moment et puis d'inviter tous les acteurs internationaux dans l'école qui maintenant ont fait des petits. À Eindhoven, vous avez une section food, non-food. À Milan, à la Polytechnique de Milan, vous avez une section. À Bruxelles aussi. Donc on voit qu'il y a tout un maillage comme ça qui s'est créé dans les écoles de design. Et pas que dans les écoles de design.
Et puis Germain Bourret, qui a travaillé avec vous, je crois, a obtenu là tout récemment le Grand Prix de la création 2019 de la ville de Paris. Il fait du design culinaire lui aussi.
Ouais. Alors Germain Bourret, ça a été le premier étudiant à passer son diplôme en design culinaire à Reims. Et il a pris ma succession avec brio, avec une autre étudiante aussi, Julie Rotan, qui travaille beaucoup sur le spectacle vivant. Parce que
vous voyez, je vous parlais de scénographie tout à l'heure, on n'est pas très loin.
Bah oui, mais le l'acte de manger, c'est du théâtre. Et donc Julie, elle travaille beaucoup sur le spectacle vivant, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je pense qu'une des grandes valeurs de l'alimentation, c'est d'être vivant. Vous savez, il y a une théorie comme quoi on mange tellement de conservateurs que nos corps dans le sol ne se dégradent plus. On est conservé de l'intérieur. On digère du conservateur. Donc vous voyez, ça va jusqu'à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on va faire de nos corps s'ils ne disparaissent plus en fonction de ce qu'on mange?
Il y a une question très utilitariste, volontairement provocatrice, que je vais vous poser. C'est que une chaise, pour revenir à la chaise, parce qu'on est assis sur des chaises, une chaise, elle sert à s'asseoir, mais un millefeuille vertical, puisque vous avez fait un millefeuille vertical, Marc Bretillot.
Ouais. Alors vous me posez la question. c'est rigolo parce que j'ai été attaqué par Pierre Hermé en disant si c'est ça le design culinaire, ça sert vraiment à rien. Mais
vous réfléchissez à la réponse, parce qu'il est 7h30, il faut qu'on laisse passer les titres de l'actualité. Le millefeuille vertical, on retient. À tout de suite, Marc Bretillot. Et ici, en direct des studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire, notre invité est le designer Marc Bretillot, designer culinaire. Nous nous sommes quittés il y a 2 minutes, Marc Bretillot, sur cette question du millefeuille vertical. Vous nous disiez que vous aviez été un peu attaqué par Pierre Hermé, qui vous disait « Oh, si c'est ça le design culinaire, point de suspension ».
Oui, parce que...
C'est quoi d'abord un millefeuille vertical?
C'est juste un millefeuille qui est couché sur sa tranche.
C'est un vrai millefeuille.
Oui, oui, c'est un vrai millefeuille. La recette que j'ai travaillée avec la Grande Épicerie de Paris, puisque c'était un projet pour cette maison, sur le revisiter les pâtisseries traditionnelles françaises. Il y en avait trois. Il y avait le Paris-Brest, le millefeuille et le mocha. Là, l'idée, c'était d'avoir un gros gâteau, d'avoir un gros millefeuille. Et c'est un gâteau qui est compliqué à découper. Et en fait, la façon de le découper proprement, c'est de le mettre sur sa tranche, d'exercer la pression sur la pâte et non pas sur la crème. Donc en fait, vous voyez, comme c'est vous l'interprétez sur l'aspect esthétique, mais en fait, c'est juste une question d'usage. Et c'est comme ça que la forme a surgi.
La fonctionnalité du millefeuille. Et alors, vous avez travaillé donc ici à Saint-Étienne en particulier. Vous avez participé à une résidence au centre hospitalier, au CHU de Saint-Étienne, sur le thème de l'alimentation en milieu hospitalier. Et c'est un travail qui a duré un an et qui donne lieu à une exposition qui s'intitule « Hôpitable ». Racontez-nous.
Oui, c'est une invitation de résidence qui s'inscrit dans un programme qui s'appelle « Culture et santé », où on fait entrer des artistes, des designers à l'hôpital. Et moi, forcément, mon cœur de métier étant les questions sur l'alimentation, j'ai voulu travailler sur cette question-là. Avec, c'est un milieu que je connais pas bien. J'ai jamais été hospitalisé. J'ai perdu mes parents tôt, donc j'ai été à l'hôpital, mais c'est quelque chose que j'ai occulté. J'ai proposé aux services qui étaient intéressés de travailler avec eux, de faire des ateliers, et à l'issue de ces ateliers, d'en tirer des enseignements pour avoir des propositions. Donc Hôpitable, l'association entre table et hôpital, et Utopitable, utopie d'une cuisine à l'hôpital, qui est la proposition, la restitution de ce travail immersif. Et ce qui est rigolo, c'est que moi je pensais qu'à l'hôpital, la nourriture c'était dégueulasse.
Vous n'êtes pas le seul à le penser.
Voilà, quand vous baladez un micro dans la rue, c'est ce que les gens vous racontent. Et en fait, pas du tout. Les patients sont super, je vais pas dire super contents, mais ils sont déjà très respectueux du travail qui est fait à la cuisine centrale de Saint-Étienne, qui délivre 4500 repas par jour, donc c'est pas rien, avec une technologie drastique, avec le fait que la nourriture doit être complètement safe, que il y a des régimes particuliers pour chaque patient, donc c'est une vraie usine à gaz de faire de la nourriture à l'hôpital. Et en fait, les patients sont assez reconnaissants de ce qu'ils mangent. Et ça, c'était plutôt joyeux, en fait, de compulser des témoignages qui témoignent du fait que, ben ouais, à l'hôpital, la nourriture n'est pas dégueulasse.
Et donc, les fruits de ce travail sont donc à voir dans une exposition Hôpitable ici à Saint-Étienne. Et dans le cadre, Marc Bretillot, de cette biennale qui vient d'ouvrir ses portes, biennale du design, vous nous disiez tout à l'heure que vous alliez être commissaire de cuisine avec un petit sourire sur le coin de vos lèvres. Commissaire de cuisine, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, vous allez nous le dire, mais vous avez préparé trois cocktails signatures et la wrappée, bien sûr, la râpée stéphanoise, mais vous avez créé donc ces cocktails et cette râpée avec des barmen, avec des restaurateurs stéphanois. Commissaire de cuisine, pour terminer.
Oui, bah le nom m'amusait. Il y a le côté un peu... on regarde les choses, on analyse. Vous savez, quand vous arrivez sur un territoire comme ça, déjà, il se trouve que je suis parisien, donc c'est pas toujours bien perçu. Il faut du temps pour discuter avec les gens, avec les commerçants, etc. Donc ça prend du temps. C'est la même histoire aussi à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai voulu que la résidence se fasse sur un temps long, pour pouvoir m'immiscer dans les services et arriver à discuter avec les patients. Par exemple, j'ai travaillé au service des soins palliatifs. J'ai mis au moins trois séances à pouvoir accéder aux patients. Et avec les restaurateurs, c'est un petit peu pareil. Il faut du temps pour leur faire comprendre que un regard extérieur peut être bénéfique sur leur pratique et les questionner en disant voilà, vous faites ça depuis X années. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous savez pourquoi on mange sur une table à 75 cm du sol? Est-ce que c'est le meilleur modèle ou est-ce qu'il y a d'autres modèles culturels qui sont plus intéressants? Est-ce que tout ça évolue? Donc sur des choses comme ça qui sont
Non, non, terminez votre phrase. Je montre du doigt que je m'apprête à vous poser une question pour terminer, parce qu'on arrive au bout, Marc Brétillon, mais juste parce que j'avais envie de vous entendre nous donner une toute petite recette rapidement de la wrapée.
Ah, la wrapée, c'est un plat local.
Ben oui, la wrapée, oui.
La wrapée stéphanoise. Et l'idée, c'était d'en faire quelque chose qui soit nomade, parce que les gens qui viennent sur une biennale, ils passent du temps dans les expositions, ils marchent, ils n'ont pas forcément le temps de se poser dans un restaurant. Et l'idée, c'était de transformer cette wrapée en quelque chose qui puisse être roulé avec une garniture à l'intérieur, qui fasse un plat entier et qui puisse être mangé en marchant.
Et puisque on n'aura pas le menu complet, mais puis il faudra la goûter, puis il faudra venir voir à la Biennale à quoi ça ressemble tout ça. On va terminer par un menu chanté, un menu de Pierre Gagnaire dont on a parlé tout à l'heure. C'est Aston Villa Slow Food.
Escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
Allez, merci beaucoup à vous Marc Brétillon et d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure de ces matins du samedi en direct de Saint-Étienne. Et à très bientôt, j'espère.
Ouais, merci.